patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la complainte du travail.
De l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à la complainte du travail. Cette émission est présentée par Illusion Emploi, qui est un organisme de défense et de promotion des droits des travailleuses et des travailleurs non syndiqués. On fait l'émission dans le cadre de notre projet pour les jeunes et le travail atypique. Et aujourd'hui, notre sujet de l'émission, c'est la génération Y au travail. Donc, on a une invitée spéciale qui est Josée Garceau, directrice du recrutement des étudiants à l'Université de Sherbrooke et conférencière. Bonjour, Josée.
Bonjour.
Alors, moi, j'avais vu une conférence de Josée au Cégep. J'avais trouvé ça super intéressant et j'ai pensé que ça pouvait être très intéressant de vous le faire vivre à vous aussi. Donc, on va commencer tout de suite. Quelles sont les quatre générations présentement là, sur le marché du travail?
En fait, la plus âgée, c'est les traditionnels qui sont nés entre 1900 et 1945. Suivent les baby boomers, qu'on connaît tous, qui sont nés entre 1945 et 1960. Les X, qui sont nés entre 1960 et 1980. Et les Y, qui sont nés entre 1980 et 2000.
Et puis, chaque génération a un peu des particularités face au travail. Comment voit-il respectivement le travail?
En fait, c'est certain que les particularités des générations sont influencées par la période. Alors, la période des traditionnels, ça a été la période des deux grandes guerres, ça a été la période de la crise économique et tout ça. Alors, le travail, évidemment, c'est quelque chose qui est important, qui a déjà été rare à une époque. Et il faut penser que ces gens-là, en fait, les plus âgés, donc c'est des gens souvent qui sont sur le bord de la retraite ou qui ont pris la retraite, c'est des gens qui, pour qui le travail s'était tourné vers l'extérieur. C'est-à-dire, le travail, c'était pour le bien commun, pour aider la famille, pour aider les enfants, pour aider la communauté. Quand on arrive avec les baby boomers, qui est une génération différente, qui a vécu en société des choses différentes, pour eux, le travail, il est tourné vers soi. Donc, le travail, c'est plus une réalisation de soi. Alors, on cherche un travail qui nous fait plaisir, dans lequel on va être heureux, qui va se... Donc, le travail n'est plus vers les autres. Le travail, c'est une façon de grimper, de monter dans la société, de s'établir.
Est-ce que ça a été aussi avec, en fait, l'apparition de plus d'emplois, plus de possibilités de carrière?
Il y a ça, mais il y a aussi la période qui est une période où les baby-boomers ont eu une période évidemment d'ouverture économique, de possibilités, de changements. Il y avait beaucoup d'opportunités. Il y a eu beaucoup de développement qui a été fait aussi. Donc, c'était très, très positif aussi. Donc, il y avait plus de choix, il y avait plus de possibilités. Leurs parents leur ont dit que c'était bien de chercher quelque chose qui les rendrait heureux, alors qu'eux autres, ils n'avaient pas eu beaucoup le choix. Alors, c'est toutes sortes de conjonctures, finalement, qui apportent ça. Si on regarde du côté des X, bien, eux, c'est un peu différent, parce que c'est une génération qui a grandi dans une période qui est redevenue difficile. Alors, les années 80, c'est des crises économiques à peu près à toutes les 5-6 ans. C'est au niveau social aussi, c'est l'éclatement de la famille, c'est la perte d'influence de la religion, c'est l'arrivée du sida. Donc, ça change toutes les rapports entre les personnes et aussi les rapports sociaux. Et les X, c'est une génération c'est un petit groupe, hein, c'est pas une génération très nombreuse, contrairement aux baby-boomers. Et pour eux, le travail, c'est vraiment une façon de se démarquer. Ils ont de la difficulté à faire leur place parce que les baby-boomers sont bien assis, bien en selle, veulent pas s'en aller. Alors, pour eux, le travail, c'est vraiment une façon de se démarquer puis de démontrer qu'ils sont compétents puis qu'ils sont capables de contribuer à la société. Et quand on revient aux Y, donc les plus jeunes maintenant, qui reviennent avec une situation économique qui ressemble à celle des baby-boomers, donc quand même très positif, là, à part les derniers mois, on peut dire que c'est quand même une situation qui a été positive en termes économiques et en termes d'opportunités.
Marché de l'emploi plus ouvert.
Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus d'opportunités. Écoutez, pour les diplômés, là, pour ceux qui font des études, dans beaucoup de secteurs, c'est le plein emploi. Il y a même des pénuries. Hein. On entend parler de plus en plus qu'il y a des pénuries dans certains secteurs d'emploi. Alors, pour eux, le travail, c'est vraiment pour le plaisir et pour le sens. Donc là, on revient un peu aux baby-boomers qui cherchent un travail qui soit... agréable, mais en même temps, le Y, lui, il veut que ça fasse du sens, il veut que ça soit utile. Il veut pas juste travailler pour travailler. S'il voit pas le sens dans ce qu'il fait, il va abandonner assez rapidement.
C'est quoi qui caractérise vraiment les Y là, par rapport à dans vie, là, pas juste au travail, supposons, comment ils sont à peu près?
Bien, c'est sûr que les Y, ils ont été plus gâtés. C'est la génération qui a été la plus gâtée là, des générations précédentes. Ils sont habitués à avoir plus souvent, contrairement à ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas fait dire non souvent. Beaucoup par les parents, par les professeurs. Ils se sont fait dire surtout que tout irait bien, puis qu'ils étaient capables, puis que leur rêve pourrait devenir réalité. Puis tu sais, on entend souvent les parents dire « Ah, peu importe ce que tu vas faire dans la vie, je sais que ça va fonctionner. » On sait très bien que dans la vraie vie, c'est pas exactement ça, mais ils ont un égo assez bien, en assez bonne santé. Donc, ils sont très, très positifs. Ils sont persuadés que tout va bien aller, puis en même temps, ils sont pas très équipés pour quand ça va pas bien. Comme ils ont été beaucoup couvés, on a beaucoup essayé de leur empêcher. En fait, on les a cachés de toutes sortes d'expériences négatives. Les parents les ont surprotégés. Quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont persuadés que ça va aller bien du premier coup. Ils sont persuadés qu'ils vont avoir les promotions rapidement, que tout va bien aller. Puis quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, là, ils sont un petit peu plus démunis. Ils ont de la difficulté à s'en remettre. Ils ne savent pas trop comment se remonter puis reprendre les rênes de leurs difficultés. Alors, ça fait un groupe qui est très dynamique au niveau de son implication à la société, qui veut beaucoup, qui est optimiste, mais en même temps qui est quelquefois mal équipé pour faire face aux aléas de la vie, si on veut, là.
Qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'eux, ils arrivent sur le marché du travail puis qu'ils sont moins bien équipés pour faire face à ça? Est-ce que c'est une surprotection de la part des parents?
Ah oui, tout à fait. C'est certain que, pour toutes sortes de raisons, là, qui sera un petit peu longue à expliquer ce matin, mais les parents ont élevé ces jeunes-là d'une façon très, très différente des générations précédentes. Et ils ont... en fait, les parents se sont donné plus un rôle d'ami qu'un rôle de parent. Alors, quand tu es un ami, tu supportes, t'encourages, t'écoutes... mais tu critiques pas, tu remets pas nécessairement les pendules à l'heure avec la personne parce que tu es son ami, tu veux l'écouter, tu le prends comme il est, etc. Alors que le rôle du parent, c'est plus des fois de dire, écoute, quand tu fais ça, ça marche pas, quand tu fais ça, c'est pas une bonne affaire. Ils ont manqué beaucoup de discipline à ce niveau-là.
Manqué d'autorité.
Beaucoup, beaucoup d'autorité. Les parents, ils voulaient vraiment être comme vraiment des amis, ce qu'ils sont d'ailleurs, parce qu'on voit des jeunes de 25, 26 ans qui prennent encore leurs vacances avec leurs parents. Là. Nous autres, dans notre temps... On aurait bon
voulu. À 30 ans, je prends mes vacances avec mes parents souvent.
Non, pas vraiment. Puis même à 15 ans, on voulait faire semblant qu'on n'avait jamais eu de parents dans notre vie. Là. Alors là, on est dans un autre mode. Et les parents, pour bien faire, parce qu'ils les aiment aussi, ils les ont tenus à l'écart de toutes les difficultés. Alors, ils sont allés au-devant des difficultés pour eux. Ils les ont retirés de situations dès qu'il y avait une petite, je dirais pas nécessairement un gros problème, mais quelque chose qui pouvait affecter ou qui pouvait nuire un petit peu à l'enfant. Tout de suite, ils vont l'enlever de là pour pas qu'il connaisse d'expériences malheureuses. Alors, on va faire très, très attention à le protéger, sauf qu'on va faire ça dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence. À un moment donné, bien, si tu n'as jamais eu à dealer avec des problèmes, si dès qu'il y a un petit problème, quelqu'un vient en avant de toi puis te protège puis règle le problème à ta place et tout, bien, évidemment, quand tu deviens un adulte, tu n'as pas appris. Alors, c'est pas que tu n'es pas intellectuellement capable de le faire, c'est juste que tu n'as pas appris, premièrement, à réaliser que ce que tu fais, c'est pas toujours formidable, puis qu'il y a des conséquences, et puis que quand il y a des conséquences, bien, des fois, sont négatives, puis que c'est toi qui l'as créé, c'est toi qu'il faut qu'il le répare. Mm-hmm. Ça, c'est tous des concepts que les parents n'ont pas montrés, là. Alors, évidemment, une fois adultes, c'est pas parce qu'ils sont rendus des adultes qu'ils vont développer cette compétence-là, là.
C'est plus difficile pour eux après, là.
Oui, c'est plus difficile pour eux. Alors, dès qu'ils avaient prévu, je sais pas, moi, qu'après 6 mois dans l'entreprise, il y aurait le gros mandat, puis qu'ils l'ont pas, là, ils sont déçus, puis là, l'estime de soi est attaquée, puis là, ils ont de la peine, puis ils trouvent ça dur, puis là, ils doutent, puis bon. Alors que d'autres générations auraient dit, bon, ben coudonc, c'est correct, on va se reprendre, je m'en vire de bord, je vais démontrer que j'ai plus de compétences, je vais donner un petit peu plus de temps, je vais me faire valoir. Eux autres, tout de suite, ça les écrase. T'sais. Puis là, ils ont pas la... Ils savent pas comment analyser cette situation-là puis aller en chercher quoi faire pour être capable de s'en sortir. En fait, ils vont appeler les parents puis c'est les parents qui vont essayer de régler le problème encore.
Parce que c'est eux qui l'ont toujours fait.
Ben, c'est eux qui l'ont toujours fait. Puis dans la tête des jeunes, c'est le rôle des parents.
OK. Et même rendu adulte.
Oui. Ah, oh, tout à fait.
Et puis comment qu'ils voient le monde en dehors du marché du travail, là, la vie en général, comment que ça se présente à eux, pour eux, c'est quoi?
En fait, en termes de priorité, c'est des jeunes qui placent la famille et les amis au centre de leur priorité. C'est vraiment ce qui est le plus important. C'est pas la carrière, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas d'être millionnaire, c'est pas le pouvoir, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la famille, les amis, éventuellement les enfants. C'est des jeunes qui veulent avoir des enfants, qui veulent être en couple. Ils recherchent une famille assez traditionnelle, d'ailleurs. Et ils vont chercher à faire plusieurs choses dans leur vie. Alors que les baby boomers, c'était la carrière, après ça, l'avancement, bon, la famille, etc. Eux, ils vont faire, ils vont avoir plusieurs intérêts. Ils vont vouloir effectivement avoir un travail intéressant qui fait du sens. Ils vont faire de l'engagement social. Ils vont vouloir changer de travail souvent. Ils vont vouloir faire du bénévolat. Ils vont faire de la coopération internationale. Ils vont vouloir avoir des enfants, retourner aux études, se partir en business. Ils ont le goût de faire plein d'affaires dans leur vie.
Ils ont un agenda très, très plein.
Oui, ils ont un agenda plein. Et en fait, nous, on a beaucoup planifié notre vie de façon linéaire. Hein. Quand je vais être jeune, je vais faire ça. Puis ensuite, quand j'aurai des enfants, je ferai ça. Puis là, je ne ferai plus ça. Mais je vais attendre quand je serai à la retraite, je recommencerai à faire ça. T'sais, on a tout mis ça dans une ligne, si tu veux. Alors que les Grecs, eux autres, ils font tout en même temps. Ils font pas une affaire une après l'autre, ils les font tout en même temps.
Ça vient, quand ça passe, quand
ouais, en fait, la grosse différence, c'est que nous, on a planifié beaucoup pour le futur. Eux planifient pas pour le futur parce qu'ils vivent dans le présent. Donc, comme ils sont pas sûrs qu'ils vont avoir un futur, puis ils sont pas sûrs dans quel état ça va être, puis il faut croire qu'avec ce qu'on lit dans les journaux et tout, on peut leur donner raison. Là, on ne sait pas nous autres non plus. Alors, comme ils le savent pas, ils se préfèrent dire, ben écoute, je vais faire tout ce que je peux dans le présent parce que si je me retiens de faire des choses en me disant, moi, les faire plus tard, puis je n'ai pas de plus tard, je vais être passé à côté.
OK.
Donc c'est le présent qui est très important. C'est pour ça que des fois, ils font des choix que nous autres, on trouve très étranges parce qu'ils ne planifient pas pour le futur.
Ils pensent à ici
oui,
et maintenant.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui se
tout
passe?
À fait.
On va passer tout de suite à l'indice, puis on va revenir avec la. On s'en va en chanson aussi avec La Fabrique de Francis Cabrel et on revient tout de suite après. Thank you.
CFLX FM 95,5 CFLX.qc.ca.
Alors bonjour, nous revoilà de retour à l'émission La Complainte du Travail avec José Garceau aujourd'hui qui nous parle de la génération Y au travail. Je suis désolée pour la chanson, c'était peut-être Francis Cabrel, mais c'était juste musical, c'était pas La Fabrique. On se reprendra. Donc, comment sont-ils les Y au travail?
En fait, ils sont premièrement des gens d'équipe. C'est des jeunes qui aiment et qui performent très, très bien en équipe. Ça, c'est très clair, en fait, depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils sont en équipe, hein, à la garderie, à l'école. Toutes les méthodes d'enseignement, ça a été ça. Alors, une fois sur le travail, c'est vraiment des jeunes qui vont avoir de la difficulté à travailler tout seuls dans leur coin. Contrairement aux X qui aiment bien travailler tout seuls dans leur bureau, la porte fermée, les Y qui aiment les aires ouvertes, 3-4 autour d'une table, le bruit, ça ne les dérange pas. Donc, c'est des gens qui aiment partager les dossiers, partager la façon de travailler. C'est aussi des jeunes, évidemment, qui essaient d'être le plus efficace possible. Alors, ils ont l'obsession du temps. Ils veulent pas perdre de temps, alors ils vont prendre tous les moyens possibles pour essayer d'en faire le plus possible dans le moins de temps possible. Des fois, c'est heureux, des fois, ça l'est moins. Alors, quelquefois, ils vont le faire de belle façon, entre autres en utilisant beaucoup la technologie pour essayer de gagner du temps. Ils vont communiquer beaucoup par courriel. Ils vont utiliser beaucoup les outils informatiques pour être capables de s'organiser, pour que ce soit plus efficace, pour partager les dossiers de l'information et tout ça. Mais en même temps, des fois, pour aller plus vite, ben là, ils vont couper un petit peu les coins ronds. Ils vont essayer de faire en 4 jours ce qui normalement se fait en 6 jours. Et là, des fois, c'est un petit peu moins heureux, là. Ça reste des jeunes qui ont besoin de beaucoup d'explications et d'encadrement. Ils ont toujours grandi là-dedans. Hein. Toutes les cours, toutes les choses qu'ils ont fait quand ils étaient petits, tous les sports, c'est des sports d'équipe, c'est des sports avec des moniteurs, des coachs, des entraîneurs. C'est des activités où il y a toujours eu quelqu'un, un responsable, qui leur a expliqué ce qu'il y avait à faire. Alors, une fois sur le marché du travail... si le patron demande quelque chose, mais n'explique pas le pourquoi c'est nécessaire et tout ça, là, ils vont avoir beaucoup de difficultés à être motivés. Alors, il faut avec eux expliquer pourquoi on leur demande ce qu'on leur demande. C'est sûr que la plupart des patrons, ils haïssent bien ça parce qu'ils sont pressés puis ils ne veulent pas passer 10 minutes à chaque tâche. Ce n'est pas nécessaire d'en faire tant que ça, mais c'est nécessaire au moins que le jeune sache où est-ce qu'on s'en va. Il y a besoin de leadership. Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi les projets? C'est quoi les échéanciers? Pourquoi on s'en va là? Et que quand on lui demande des choses, qu'il sache exactement c'est quoi son rôle puis c'est quoi sa contribution. Mais une fois qu'il sait ça, il est extrêmement motivé, il va travailler fort, il va faire les heures, il va avoir ça à cœur. Mais s'il n'a pas ces informations-là, c'est là qu'il n'est pas motivé, c'est là qu'il n'a pas le goût.
Il a besoin de comprendre le pourquoi.
Il a besoin de comprendre, c'est vraiment dans toutes les affaires, il va toujours demander pourquoi. Et souvent, les patrons prennent ça un peu plus comme une critique. Tu sais, un patron qui est habitué, par exemple, à dire « bon, ben là, j'aimerais que tu me fasses ça », puis qu'il n'y ait jamais de réponse, puis là, il se fait dire « pourquoi faire ?» Lui, il va le prendre plus comme une espèce de critique, comme un manque de respect, mais c'est pas ça le but du jeune. Le jeune, c'est vraiment pourquoi? Parce que je comprends pas, parce que si je comprends plus, je vais être encore plus efficace, puis je vais faire un meilleur travail, puis je vais être plus motivé.
Puis est-ce que c'est vraiment efficace de le faire de cette façon-là? On pourrait peut-être essayer une
exactement,
autre façon.
Exactement. Alors, souvent, le patron le prend plus comme. Il va le prendre un peu mal, puis il va se dire ah, il est pas poli, ça, comment ça qu'il remet en question mon autorité? Et c'est pas ça du tout. C'est vraiment une question de bien comprendre. Mais à partir du moment où c'est fait, là, il va trouver que c'est vraiment un employé qui va être performant, qui va être motivé. Mais c'est pas l'employé qui va rester là 25 ans.
Il a envie de bouger.
Il a envie de changer, il a envie de nouveaux défis. Les statistiques démontrent qu'un jeune qui sort, par exemple, d'une université ou d'un collège, puis qui travaille dans son domaine pour la première fois, là, sa première job à temps plein dans son domaine d'études, il reste en général une année et demie.
Oh, c'est pas longtemps.
C'est pas longtemps. Alors ça veut dire qu'après ça, là, il y a le goût d'autre chose.
Est-ce qu'il change de carrière aussi?
Mais en fait, il voit pas ça comme une carrière. Il voit ça comme des projets. Alors, okay. Il peut très bien décider que, bon, ben, il a fait le tour, il a fait ça pendant un an et demi, 2 ans, même s'il a étudié des années pour faire ça, là. Puis là, il y a le goût d'autre chose. Il peut retourner aux études, il peut décider d'autre chose. Là, pour les employeurs, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le garder au moins dans l'entreprise. Il sera peut-être plus dans le même poste qu'il était, mais si au moins tu peux le garder dans l'entreprise, c'est déjà pas pire.
Offrir de l'avancement.
Bien, pas nécessairement. Et c'est ça la grosse différence avec les baby boomers. Ils veulent pas nécessairement monter à la verticale. il serait plus porté à se promener à l'horizontale. C'est-à-dire que d'être capable de changer d'emploi dans la même entreprise, ça ferait bien leur affaire s'ils aiment cette entreprise-là et ses valeurs et tout ça. Mais ils veulent pas nécessairement devenir boss, puis petit boss, puis moyen boss. Ils veulent plutôt être capables de d'aller à gauche, à droite, rester au même niveau, mais changer d'emploi pour que ce soit plus intéressant. Ça, ils n'ont pas de problème avec ça.
Pour changer de tâche, pour faire autre chose.
Oui, ce n'est pas une question de statut. C'est plus une question de défi que de statut.
D'essayer des nouvelles affaires, c'est ça. De voir...
Sortir de la routine, yaïs la routine.
OK, essayer des... Ouais, c'est ça. Ouais. Pas faire la routine. Puis vivre dans le moment présent, donc c'est ça que ça l'implique
tout
aussi. Si dans le moment présent, on devient plus heureux avec ce qu'on fait,
c'est
bien,
ça.
On change.
Exactement.
Il n'y a pas de contrainte.
Puis on ne restera pas là parce que les générations précédentes, quelquefois, sont restées là, même dans une job qui aimait moins. Ah, bien là, il y avait des bénéfices marginaux, puis là, il y avait ramassé de l'argent pour le fonds de pension, puis là, il y avait l'assurance de l'affaire, puis ci, puis ça. Mais les jeunes, eux autres, ne sont pas préoccupés de ça.
Mais qu'est-ce qui vont les attirer dans un travail plus qu'un autre?
Le sens, l'utilité réelle de ce qu'ils font. Est-ce que ça amène vraiment un changement positif? Est-ce que c'est une contribution qui est utile à la société? Est-ce que c'est quelque chose qui leur procure aussi du plaisir, qui leur procure... Est-ce que l'environnement de travail est intéressant? C'est pas tant dans les bénéfices marginaux que dans le type d'environnement. Est-ce qu'on leur offre justement des possibilités de changer puis d'essayer de nouvelles choses? Est-ce qu'ils ont la possibilité de travailler sur des défis qui sont intéressants? Est-ce que l'ambiance, est-ce qu'ils sont en équipe justement?
Oui,
est-ce que
l'équipe
est le fun? Est-ce que le type de leadership qui est là? Est-ce que les valeurs de l'entreprise sont importantes? Ils sont beaucoup moins préoccupés à savoir c'est quoi le fonds de pension, puis c'est quoi les assurances, puis c'est quoi ces affaires-là. Ça les préoccupe peu parce que c'est des choses du futur. Ça, les fonds de pension, ça, c'est comme dans 25 ans. Alors, eux autres, 25
beaucoup
ans, là, c'est beaucoup trop loin. C'est des autres choses. Alors, quand ils vont chercher un emploi, souvent, ils vont aller sur Internet et ils vont regarder, par exemple, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? C'est quoi le bilan environnemental de cette entreprise-là? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses réalisations? C'est quoi son style de gestion? Est-ce que c'est syndiqué? Est-ce que c'est pas syndiqué? Ça, pour eux, c'est important.
Est-ce qu'ils ont envie d'être syndiqués?
Pas pantoute.
Ah non?
Non, parce que pour eux, le syndicat... en fait, c'est pas qu'ils renient le syndicalisme, c'est plus que le modèle syndical correspond pas vraiment à leurs valeurs. Eux, ils voudraient que tout soit basé sur les compétences et non pas sur l'ancienneté. Et le modèle syndical au Québec, c'est beaucoup un modèle qui est basé sur l'ancienneté. Alors, eux, ce qu'ils voudraient, c'est bien, plus tu as des compétences, plus tu as des opportunités, puis c'est le plus compétent des deux qui va avoir le poste s'il est ouvert et non pas le plus ancien des deux.
Ah, pour eux, l'ancienneté leur brime dans leur avancement.
Tout à fait. Et l'ancienneté, c'est quelque chose qui est intéressant dans le futur.
Oui.
Mais ça, dans le présent. Alors, l'ancienneté, eux autres, ça n'a aucun intérêt et c'est un frein. Alors, ce qu'ils voient dans des entreprises, quelquefois, c'est qu'il y a un poste qui est affiché où ils savent qu'ils auraient tout à fait les compétences pour le faire, mais ça fait 2 ans qu'ils sont dans l'entreprise, ils ne peuvent même pas postuler alors qu'il y a un monsieur qui a 15 ans d'ancienneté, qui n'a probablement pas autant de compétences que le jeune pour toutes sortes de raisons, qui va l'avoir. Puis eux, ça les choque parce qu'ils voient que c'est pas efficace. Que ça fait pas de sens, que c'est illogique, puis qu'on reconnaît pas son talent.
Et pourtant, pour un bébé boomer, ça va être complètement, ou même pour la génération X, ça va être complètement normal
tout
que si ça fait 15 ans que je suis là, que ce soit moi qui ai le poste.
Tout à fait. Mais eux, ils le voient aussi d'une façon verticale. Alors, c'est important de gravir les échelons. Donc, je reste longtemps, puis je ronge mon frein, même si j'aime pas bien ma job, parce que je veux monter les échelons. Puis après tant d'années d'expérience, je peux postuler sur ci, puis sur ça, parce qu'ils planifient leur futur, puis c'est important le statut. Mais pour le jeune, c'est pas ça. Alors, lui, de savoir que l'organisation syndicale se fait en sorte qu'il n'est pas capable, justement, de se promener à l'horizontale, qu'il faut qu'il attende de tel affichage, qu'il n'est pas dans le bon... dans la bonne catégorie d'employés pour postuler sur telle affaire, ça les met...
Alors, c'est pour sans
ça,
connaissance.
Sans connaissance. Et c'est pour ça qu'on voit très peu de jeunes dans les assemblées syndicales,
mm-hmm.
très peu d'engagement à ce niveau-là. Tout ce qu'ils attendent, là, c'est que les exécutifs prennent leur retraite, là, puis qu'ils prennent la place, puis que là, ils vont changer la façon. Je ne vous dis pas qu'ils vont mettre le syndicat à terre, mais ils vont changer l'organisation de ça et les bases de ça. Et où nous, dans les générations précédentes, on travaillait pour le patron, eux veulent travailler avec le patron. Ils veulent faire équipe.
Non être en compétition. Mais ça va prendre des patrons qui vont être ouverts et plus jeunes. Et
bien,
plus...
c'est la même chose. Alors, quand tout ce monde-là va partir à la... Mais si on regarde les entreprises créées par les jeunes, les Grecs actuellement, il n'y a pas de syndicat et il n'y a pas de nécessité d'avoir de syndicat. Les gens s'assoient ensemble, ils discutent de leurs conditions ensemble, ils partagent ensemble les bénéfices et les échecs. Ils s'organisent entre eux pour les horaires, ils se font des petites équipes, ils se soutiennent quand un vit des choses différentes, etc. Tu vois que c'est un modèle de grande collaboration, c'est un modèle d'équipe, c'est un modèle où tout le monde est sensiblement égal. Oui, chacun n'a pas les mêmes responsabilités. Il reste qu'il y a un patron et tout ça. Mais en termes de contribution, tout le monde va contribuer autant. Et l'idée, autant du petit dernier arrivé que du patron de 25 ans, pourra être retenu. Donc, c'est un autre modèle et ça fonctionne.
C'est un peu le principe des coopératives.
Oui, mais moins. C'est pas une philosophie.
OK.
Les jeunes ne sont pas dans la philosophie, sont pas dans l'émotivité, sont pas dans le romantisme, sont pas dans la. C'est pas ça, là. C'est pas une religion, là.
C'est plus parce que ça fonctionne mieux comme ça.
Parce que c'est efficace, parce que ça fait que les gens sont à bonne place, au bon endroit, faire ce qu'ils veulent, ils sont heureux, ils réussissent, ça avance, on bouge. C'est plus une question d'efficacité puis de structure qu'une question philosophique de valeur, là.
Le changement social, l'implication, c'est pas dans...
Eux autres, ça passe dans l'action, ça passe pas dans la... C'est pas de la rhétorique, là. Mm-hmm. Baby boomer, on était bien, bien fort pour sortir des formules, là, mais...
Puis comment qu'on fait, en fait, dans un milieu de travail pour réussir à bien concilier deux générations?
En fait, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens sont comme ils sont, pourquoi les gens pensent comme ils sont, pourquoi c'est important pour le baby boomer, son avancement, puis pourquoi pour le Y, ça ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. C'est juste deux façons de voir la vie qui sont différentes. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible. En même temps, quand les jeunes demandent des conditions différentes au niveau du travail, les plus vieux ont tendance à penser que les jeunes veulent ça juste pour eux autres. Puis que les vieux, eux autres, qui continuent à faire 70 heures par semaine s'ils veulent, puis faire des crises cardiaques. Puis c'est pas ça. Les jeunes n'ont jamais dit que ce qu'ils demandaient, c'était juste pour eux autres. C'est inclusif.
Alors, vous pouvez le prendre, vous autres aussi, de faire 30 heures semaine.
Oui, fait qu'on peut peut-être s'asseoir ensemble et essayer de voir comment est-ce qu'on peut arranger ça pour que tout le monde ait de meilleures conditions de travail. Déjà, en partant, si on change cette optique-là en arrêtant de penser que les jeunes demandent des choses juste pour eux, déjà, c'est différent. Évidemment, il faut éviter de faire des groupes, il faut éviter de faire des équipes de baby boomers puis des équipes de Y. Il faut essayer de mettre ce monde-là ensemble, puis il faut communiquer. Je sais que c'est toujours la solution
c'est la
des
solution,
années 2000, mais
voilà.
Ça reste que c'est ça pareil.
Pour dire c'est quoi nos besoins, puis là, on va s'entendre ensemble.
Exactement.
De comment
et faire
ça
équipe.
Va. Et faire équipe. Mais merci beaucoup, Mme Garceau.
Bienvenue.
C'était très intéressant. La semaine prochaine, on va avoir une émission sur le processus de plainte. Si vous avez n'importe quelle question par rapport à vos conditions d'emploi, vous pouvez nous téléphoner ou passer nous voir à Illusion Emploi au 819-569-9993. Ou au 187 rue Laurier, bureau 214. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.illusionemploi.org. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.